Aujourd'hui, je présente donc Jim Ritter. Jim Ritter est né le 2 décembre 1943 aux USA. Il est maître de conférence au département de mathématiques de Paris 8 et co-responsable du programme d'histoire et de philosophie des sciences. Il est membre de l'équipe d'histoire et d'archéologie de l'Orient cunéiforme, UMR numéro 7041 du CNRS, archéologie et sciences de l'Antiquité. Il a passé sa thèse et est devenu docteur à Paris 13 en épistémologie et histoire des sciences. Et il a enseigné par la suite dans différentes universités, par exemple à Boston, à l'Université du Chili ou encore en Angleterre, au King's College de Londres. Il est spécialiste d'histoire de la théorie de la relativité et des théories unitaires au XXe siècle, ainsi que de la notion de science et de pratique rationnelle, en particulier sur les mathématiques, la médecine et la divination dans les civilisations égyptiennes et mésopotamiennes. Il a publié de nombreux articles, mais aussi dans des revues et aussi de nombreux chapitres dans des ouvrages collectifs. Voilà, Jim Ritter, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat de 20 minutes. Je vous remercie.
Merci. Mon histoire personnelle avec la question dont je voudrais aborder ici avec vous quelques aspects, celle des mathématiques et de l'écriture, remonte à près de 30 ans. Étudiant en mathématiques et physique théorique à Londres, j'avais accepté d'enregistrer des textes mathématiques pour une collègue presque aveugle. À ma grande surprise, je constatais à quel point il est difficile de lire à haute voix un texte mathématique. Je me suis trouvé face au texte un peu comme ceci. Ou encore pire, et ceci ne sont pas des illustrations, mais une partie du texte même mathématique. Il porte de l'information et constitue une partie importante de l'argument et de la démonstration. J'ai redécouvert à cette occasion, pour mon propre compte donc, deux choses banales. La première, c'est que lire et écrire sont des activités différentes, et pas seulement réciproques. La seconde, c'est qu'un texte mathématique diffère d'un texte de littérature. Plus précisément, l'écriture n'a pas une structure linguistique intrinsèque, un point très important dès qu'on s'intéresse aux aspects cognitifs. Écriture et mathématiques, en particulier écriture et nombre, entretiennent en revanche des liens extrêmement étroits. Un exemple pour nous élémentaire, mais dont le développement a été historiquement et culturellement long et compliqué, est celui des fractions. La notion pour une fraction générale, P sur Q, désignait au début une opération de division qu'on n'effectue pas, dans certains cas parce qu'on ne peut pas l'effectuer dans les conditions admises. Une telle écriture, remarquons-le, transgresse clairement la linéarité, comme d'ailleurs nous avons vu dans le transparent que je viens de vous montrer. Et ça, c'est souvent le cas en mathématiques. Elle isole dans l'espace de la page cette opération comme un nouvel objet, qu'on va pouvoir alors traiter en soi. Par exemple, en l'incluant à son tour dans des opérations, en le traitant lui-même comme nombre. Un autre aspect de l'importance de l'écriture en mathématiques est l'unification que l'écriture peut apporter entre des phénomènes, des objets, des domaines traités jusqu'alors comme distincts. Le cas classique ici est celui de l'algèbre symbolique, en particulier à la Renaissance et au XVIIe siècle en Europe. Le symbole désigne d'abord l'inconnu cherché, mais il offre ensuite la possibilité de dénoter de la même façon des grandeurs discrètes, ce qui relevait jusqu'à là du domaine de l'arithmétique, et des grandeurs continues, qui relevaient du domaine de la géométrie. Les conséquences sont multiples et dans plusieurs directions. Par exemple, cela ouvre la perspective de nouvelles questions. Par exemple, peut-on fonder une théorie arithmétique des grandeurs algébriques générales? Peut-on développer pour elle des notions comme celle de nombre premier, par exemple? Et ça sera une question cruciale pour le développement des mathématiques structurales au XIXe et au XXe siècle. Cela suggère aussi de nouvelles représentations des objets mathématiques, dont celle encore une fois de considérer comme nombre des objets perçus autrement. À la fin du XVIIe siècle, alors que la notion cartésienne d'algèbre commence à s'imposer en Europe, le professeur et mathématicien Jean Presté explique ainsi. Les lignes géométriques sont inconnues à l'esprit, quoiqu'elles soient connues par les yeux ou par l'imagination. Et si on veut avoir des expressions qui parlent à l'esprit et non pas aux yeux, on est obligé de recourir au nombre. Et il affirme que la racine carrée de 20, par exemple, est ainsi mieux connue que l'hypoténuse du triangle rectangle dont les côtés sont 2 et 4. À l'inverse, différents modes d'écriture incluent dans différents développements, domaines, genres de questions, ce qui au départ apparaissait un même objet. Par exemple, un nombre, comme la racine de 7, peut être représenté par une racine, par un développement décimal, par un développement en fraction continue. Et chacun suggère différentes propriétés à explorer de ce même objet mathématique. Pour résumer, l'écriture unifie ou au contraire discrimine et ce faisant créer de nouvelles dynamiques pour les mathématiques, en particulier de nouveaux objets. Elle est à la fois une pratique d'action et une pratique de représentation. Je voudrais, dans ce qui suit, mettre en évidence ces différents aspects dans une situation spécifique, mais qu'on peut suivre sur le long terme, près de 1000 ans. Ce que je vais décrire est à la pointe de recherche, car nous n'avons commencé à le comprendre que depuis une vingtaine d'années, grâce à un travail de collaboration internationale et interdisciplinaire, qui en plus a fait appel à des ressources informatiques et de scannerisation puissantes. Comme j'ai dit, il s'agit d'un développement à long terme. Qui plus est, le terme de ce long terme, c'est l'an 2000 à peu près. Au risque pourtant de vous désappointer, je dois dire que le 2000 dont il s'agit est, comme on dit en maths, au signe près. Il s'agit en fait de moins 2000, 2000 avant notre ère. Je voudrais en effet reconstruire pour vous l'imbrication étroite de la naissance de l'écriture, et d'un objet tellement fondamental des mathématiques que certains mathématiciens l'ont dit naturel ou donné par Dieu, le nombre entier. Si le cas peut paraître élémentaire, il met en fait en évidence des phénomènes cruciaux et généraux. Je voudrais donc aussi prendre au mot cette idée d'université de tous les savoirs en essayant de vous communiquer non pas seulement les résultats de ces recherches, mais la démarche même qui les anime, de vous transformer pour une heure en assyriologue et en historien ou historienne des sciences, aux prises avec les textes parcellaires tronqués dont nous disposons. J'ai donc besoin de votre patience, mais aussi, j'espère, de votre curiosité pour ces messages du quotidien que nous ont légués ces hommes, et peut-être quelques femmes, d'il y a 4000 ans. Dans ses premiers pas, l'écriture apparaît comme une aide-mémoire servant à garder trace de nombres et d'objets utilisés dans les transactions commerciales et non pas comme une transcription de la langue parlée. Ceci est un point important. Et peut-être pour nous aider juste un instant, je vais vous montrer la chronologie de ce que je vais traiter ici avec les différentes périodes. La plupart d'entre vous ont sans doute vu quelque part que les débuts de l'écriture commençaient avec des bulles d'argile creuses contenant des jetons, puis qu'elles étaient aplaties alors que les marques de jetons sur la surface préfiguraient les premières traces d'une écriture. Mais mon histoire ici, qui n'est pas encore aussi bien connue, commence après celle-ci, lorsque les bulles ont été remplacées par des tablettes d'argile et les jetons par les calames de roseaux. C'est alors qu'une analyse systématique et complète des systèmes métrologiques s'est révélée possible et qu'on peut vraiment suivre à la trace l'entrecroisement de développement de nombres et de l'écriture. Et je dois ajouter ici que ce travail est principalement dû à l'équipe de Berlin autour des gens comme Hans Nissen, Bob Englund, Peter Damerow et leurs co-travailleurs internationaux. On peut parler alors d'une revanche de 1000 ans de l'écriture sur les maths. Si l'écriture apparaît d'abord comme outil au service de la quantification, certains de ces développements propres ont d'importantes conséquences techniques et conceptuelles sur le développement des mathématiques. nous allons y voir en action certains aspects que j'ai déjà évoqués en commençant. C'est en Mésopotamie, donc, d'abord dans le grand centre urbain qui était l'ancienne ville d'Uruk, vers 3100 avant notre ère, et toutes mes dates, bien sûr, seront dorénavant avant notre ère, puis à Jemdet Nasser et enfin dans la ville d'Ur, qu'on trouve les premiers écrits. À Uruk, comme ailleurs, cette écriture sert à un but, l'enregistrement de la production et de la répartition des biens, la comptabilité. 85% des presque 4000 tablettes trouvées à Uruk, par exemple, sont des textes de comptabilité. L'autre 15% sont des listes de signes, groupées par thème, nom de profession, ville, objet de bois, etc., et utilisées dans l'enseignement. C'est donc la tâche de nouvel outil de représenter la quantité et nature des biens. Parmi les textes publiés d'Uruk se trouvent quelques 50 tablettes et fragments qui constituent une archive de troupeaux de moutons. La face, le côté devant, se trouve à droite et le revers, le côté derrière, à gauche. On notera qu'il y a deux sortes de signes inscrits, de factures très différentes. Une type est simple, ces objets-là. Elle consiste en l'impression d'une calame coupée droit et enfoncée droit dans l'argile ou enfoncée sur le biais. Et en fait, il y a deux tailles de ces objets-là, cette encoche qui est grande, la petite encoche ici, et pour l'enfoncement droit, le cercle, dans les deux cas. J'appellerai dorénavant ces signes numériques, car ils servent à quantifier l'information dans le compte. L'autre type de signe est plus complexe, souvent pictographique, comprenant des courbes et des droites. Ces signes non numériques sont tracés avec une calame tout à fait autre, une calame taillée en pointe, et servent à identifier l'objet ou le bien quantifié. En ce cas-là, nous avons, comme j'ai dit, des moutons. Et nous pouvons voir, même à cause de la simplicité des textes, leur structure. Dans cette case, dans chaque texte, on a le nombre de brebis, le nombre de béliers, le nombre d'agneaux et d'agneaux. Et sur le revers, on a le total de moutons adultes, le total d'agneaux. Né dans l'année. Le fait que les tablettes contiennent les totaux des entrées nous permet d'établir des relations entre les signes numériques. Ces signes sont organisés additivement. On répète autant de fois que nécessaire le signe jusqu'à un certain nombre maximal de répétitions, après quoi on passe au signe supérieur. Ça, on peut voir ici, on a une grande encoche et un cercle de brebis, une grande encoche de bélier et le total de grandes encoches et un cercle. Une autre tablette de la même archive peut nous aider peut-être de comprendre un peu mieux. Ici, le nombre de brebis, le nombre de béliers et le total en moutons adultes ici. On voit qu'il y a trois cercles de brebis, trois cercles de béliers, mais le total est une grande encoche. Il est donc clair que dans le système métrologique utilisé pour compter des brebis et des béliers, 6 petits cercles, la somme des brebis et béliers, vaut un ou une grande encoche. Il est possible d'agir ainsi sur un grand nombre de tablettes d'Uruk qui sont des comptes d'animaux. Le même système métrologique est utilisé dans tous les cas et les assyriologues lui ont donné le sigle S pour une raison que vous allez découvrir plus tard. Il fonctionne selon le schéma suivant. Les petites encoches, 10 vaut un petit cercle. 6 petits cercles, nous venons de voir, vaut une grande encoche. 10 grandes encoches, une grande encoche avec un petit cercle au milieu. 6 de cela vaut un grand cercle. Et 10 de cela vaut un grand cercle avec un petit cercle à son intérieur. De semblables analyses d'autres textes nous permettent de découvrir d'autres systèmes métrologiques, par exemple les systèmes de mesure de longueur, de surface, de capacité de grain. Le premier, celui de longueur, se révèle être identique à ce système S. Les airs se mesurent par contre dans un tout autre système que les assyriologues nomment le système G. Et les mesures de capacité de grain, à leur tour, utilisent un troisième système de mesure, dite SHE. En dépit de la multiplicité de systèmes métrologiques, et ces trois ne sont pas les seuls en utilisation à Uruk à cette époque, le répertoire des signes numériques est d'une petitesse surprenante, si on regarde les signes utilisés ici, en comparaison surtout avec les plus de 800 signes non numériques qui représentent les biens et les objets. Comme je l'ai dit, si les signes non numériques sont dessinés avec une calame pointue, les signes numériques, eux, sont imprimés dans l'argile fraîche avec l'aide de deux calames coupées droites et de tailles différentes. Chacun des deux fournit seulement deux marques différentes, un cercle, l'extrémité ronde de calame, et une encoche, l'extrémité enfoncée en biais. Ce qui donne un total de 4 signes, ou plutôt 7, car certaines combinaisons sont permises. Pourtant, bien que ces mêmes signes apparaissent dans tous les systèmes métrologiques, leur valeur, tant absolue que relative, varie selon le système, comme l'on le voit d'ailleurs sur les diagrammes. Le petit cercle, par exemple, vaut 10 fois le petit encoche si on compte des longueurs, mais 6 fois si on mesure des grains de blé. Le grand cercle représente une unité plus grande que la combinaison de grandes et de petits si l'on mesure des surfaces de champs, et le contraire si on compte des brebis. Bref, on a à cette période une multiplicité de systèmes métrologiques et pas de nombre écrit en tant que tel, avec une valeur intrinsèque. Nous n'avons que des notations écrites pour des nombres d'unités dont la valeur et le rapport dépendent fortement du système métrologique concerné. On est loin du concept de nombre écrit abstrait. L'écriture se répand dans la période qui suit, de 2800 à 2350, une période dite dynastique archaïque par les assyriologues, à toutes les cités-états de la Mésopotamie. Le développement de l'écriture à cette période est marqué par deux caractéristiques essentielles pour ce qui suit. D'abord, il y a la découverte de la possibilité d'utiliser ce nouvel outil, non seulement comme jusqu'à là, pour l'information comptable, mais aussi pour enregistrer les sons de la langue parlée. On trouve à partir de ce moment des inscriptions historiographiques, des textes religieux, des lettres d'abord très courtes, avec un peu de pratique et développement de plus en plus longues, et dans lesquelles les signes sont utilisés pour leur valeur phonétique, dans une langue qui est le sumérien. On peut suivre cette direction vers la littérature, mais ceci est une autre histoire. Notre histoire, celle des nombres, se trouve liée à une deuxième évolution, dans le changement de la forme des signes. La difficulté physique et le temps nécessaire à tracer des courbes continues dans l'argile sont à la base d'une première modification dans l'écriture archaïque. C'est un changement qui ne touche, bien sûr, au moins dans un premier temps, que les signes non numériques, car les signes numériques sont formés, comme je l'ai dit, tout à fait autrement. Plutôt que de tirer une calame pointue dans une manière continue sur la tablette, les scribes commencent à se contenter de marquer le contour d'un pictogramme par une suite d'incisions, de nouvelles sortes de calames à section triangulaire. L'effet et de produire des signes écrits par des répétitions en orientation variée d'un seul geste. J'ai mis ici le développement de 4 signes dans la période qui nous intéresse jusqu'ici, la période archaïque d'abord et la période dynastique archaïque après. Ici, vous voyez, tiré d'ailleurs d'une de ces tablettes de scolaires, de liste de signes. C'est une liste des signes des fonctionnaires de la ville d'Uruk. On trouve ici ce signe-là qui représente donc une espèce de peau. On le voit très tracé dans une manière très pictographique avec des courbes ici. Et au fur et à mesure que le temps continue, on passe à une écriture de plus en plus composée de traits, de lignes droites, mais toujours avec le kalam pointu. Mais en 2600, dans la ville d'Abu Salabih, ici, le même texte, recopié sur une période donc de 500 ans, mais cette fois-ci, écrite, les signes écrits avec ce kalam à section triangulaire, qui donne cette forme de clou que les assyriologues modernes appellent donc cunéiforme. On voit ici essentiellement la nature de tracé des signes à la fin de cette période dynastique archaïque. Même chose ici avec d'autres signes. Ici, le signe pour tête, d'abord dessiné comme ça, et puis stylisé, et enfin transformé en un contour rectifié cunéiforme. Ici, un de mes signes favoris, le bouquetin, très joliment dessiné ici, au tout début, et qui perd la plupart de sa forme pictographique en 500 ans. Donc, cette cunéiformisation, comme je vais l'appeler, des signes non numériques, est essentiellement complète vers 2600. Mais les signes numériques, eux aussi, n'échappent pas totalement à cette cunéiformisation. Parmi les exercices scolaires trouvés dans la ville de Churupak et datant à 2600, il y en a deux dans lesquels une paire d'apprentis scribes traite le même problème mathématique. On a donc un petit exercice scolaire mathématique. Ici, on voit le problème posé et ici, l'apprenti scribe a écrit sa réponse. Le même problème est posé ici et ici, la réponse du deuxième scribe. Le problème, d'ailleurs, c'est on a un grenier d'orge. Un homme reçoit cette scie-là. Combien sont les hommes entendus nécessaires pour vider le grenier? Okay. L'écriture se lit à cette époque pour la première fois et on lit ces choses-là de haut en bas dans chaque case et les cases de haut en droit sur la tablette. Les réponses sont données ici en signes numériques de système S. Comme ça se doit, on compte des objets discrets, des hommes. Et la réponse ici, 164 571 et trois syllabes de reste.
Et ici,
une autre réponse, 164 160 hommes et sans reste. L'un des deux, d'ailleurs, clairement a tort, sinon pas les deux. Et ça, c'est typique. La presque totalité des exercices scolaires mathématiques que nous avons dans la Mésopotamie sont avec des réponses fausses. Mais ce que je voulais, sur quoi je voulais attirer votre attention ici, c'est essentiellement la différence dans l'écriture de ce signe-là, le plus grand signe du système S, le double cercle, dans ce cas-là et dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est tout à fait typique de la période précédente. Ici, par contre, on a remplacé le cercle intérieur, le petit cercle, par quatre clous croisés de type cunéiforme. Et cette cunéiformisation partielle d'un signe dans le système métrologique est essentiellement la limite de la cunéiformisation des signes numériques à cette époque. On voit d'ailleurs la même chose dans la première table mathématique qu'on a de cette époque, ici. Voilà juste le début. Juste le début du texte. Elle offre une suite décroissante de longueur et de largeur de champ carré, en unité donc de système S, et des aires correspondantes, écrites directement, comme ça se doit, dans les mesures de surface, c'est-à-dire en unité de système G. Et dans les cases de surface, on voit le même signe cunéiformisé que nous avons vu dans les exercices. Mais nous avons aussi une autre différence ici avec les textes archaïques. Nous avons ici l'écriture, pour la première fois, des unités des mesures. Ici, le mindan, une unité de longueur qui vaut à peu près 3 mètres. Et le mot longueur, ici, donc, une chambre de ce côté-là, l'autre côté le même, et puis la surface malheureusement cassé sur la tablette originale, mais ici, à côté, on peut voir tout le calcul fait. Et on voit bien, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de connexion simple entre les unités de système S, de mesure de longueur, et les unités de système G, de mesure de surface. Nous allons voir que ceci aura des conséquences importantes pour le domaine numérique dans ce qui suit. Les deux points. On commence avec la phonétisation, pouvoir écrire des noms d'unités, et d'autre part, qu'on commence à cunéiformiser la manière d'écrire les signes. Une petite remarque, la différence entre le système de numération uniforme, comme nous le possédons de nos jours, et le stade que je suis en train de décrire ici, est particulièrement visible au niveau de notre table de multiplication. Car il n'existe pas de table par un nombre quelconque, bien sûr, mais de plus, le seul produit qui fait sens dans un contexte métrologique comme le nôtre, ici, est celui de deux longueurs qui donnent un R. Ce n'est pas possible de créer et écrire une table de multiplication générale, parce qu'il faut choisir des nombres écrits et donc choisir un système métrologique, obligatoirement. On ne peut pas, par exemple, multiplier des nombres venant de système G par eux-mêmes, ça donnerait quelque chose de quatre dimensions qui est exclu à cette époque. Parmi les réformes instituées pendant le premier empire mésopotamien, celui dit d'Akkadée et qui a duré entre 2350 et 2200, qui uniformise sous un même gouvernement diverses cités et modifie l'administration, qui doit aussi faire face à une tâche accrue, plusieurs réformes concernent la rationalisation de systèmes d'écriture, aussi bien que les systèmes de poids et mesures. Ce qui est un cas fréquent, on peut aussi se souvenir de la réforme des systèmes métriques chez nous, à l'époque de la Révolution française. Les deux réformes principales sont la cunéiformisation complète des signes numériques à cette époque, et la rotation des signes par 90 degrés. Ces deux développements sont illustrés par un exercice mathématique, encore une, qui remonte à cette époque. Et que, malheureusement, je n'ai pas sorti, donc je vais simplement dire que... On peut même la voir. Le voilà. On a une longueur de champ, ici, de cette taille, de côté, de longueur, et on demande la largeur telle que la surface fait cette quantité de surface. Et voici la réponse. bien sûr, comme vous voyez, sa largeur est 3 couches Neumann, un Gishpad et un Zipach. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est nos amis de l'ancien système S, vous vous souvenez, utilisé pour indiquer des mesures de longueur. Les voilà maintenant. On voit que le grand encoche et le petit cercle sont devenus maintenant non plus des marques de cette calame spéciale pour écrire des nombres, mais des signes, des marques comme des autres, faites avec le même calame triangulaire. Maintenant, le besoin d'écrire toujours plus vite amené à, essentiellement, l'idée de délaisser les deux ou trois sortes de calames pour n'avoir qu'une seule, la calame avec laquelle on écrit des signes non numériques. Et cette calame-là, donc, doit, quelque part, suivre la trace des anciens signes numériques. L'ancienne grande encoche est devenue une trait verticale, comme le petit encoche. Pour les distinguer, il faut, et on le voit ici, donner une épaisseur différente aux deux. Le grand encoche ici, plus épais, baisse que le petit encoche. Le petit cercle est devenu un simple coin de ce calame triangulaire. Donc, on a une cunéiformisation des signes numériques complète à une exception près. Le problème, c'est que ce gain dans la vitesse avec laquelle le scribe peut désormais écrire un texte résulte en une confusion graphique accrue entre des signes qui étaient autrefois tout à fait distincts. On a aussi un autre changement qui mène aussi à une disparition des distinctions qui autrefois jouaient. La direction de l'écriture. Autrefois, on se rappelle, on lisait verticalement dans chaque case. On a ici une rotation de 90 degrés. Les cases sont devenues des lignes. De lire en haut, de haut en bas devient ici de lire de droite, de gauche à droite. Et ça sera d'ailleurs la direction de l'écriture dorénavant. Tous les signes suivent cette rotation, sauf les signes, justement, de système S, qui, eux, restent droites, verticales. Voici l'ancien petit encoche de système G, qui est devenu maintenant une trait horizontale. Et cette distinction entre verticale et horizontale aide à rétablir une certaine distinction, à lutter contre l'ambiguïté imposée par cette cunéiformisation de l'écriture. Avec le changement d'orientation, on a maintenant un espace plus limité pour écrire des signes. On ne peut plus jouer sur la taille. Tous les signes doivent se mettre entre les deux lignes horizontales qui marque les lignes sur la tablette. La grande encoche ne peut plus être plus grande que la petite, par exemple. Les autres changements dans l'écriture des nombres sont justement des tentatives de déjouer l'ambiguïté imposée par la cunéiformisation et la rotation et rétablir les distinctions essentielles pour le sens de ces nombres. Donc, dorénavant, les signes numériques, à l'exception partielle de la grande encoche du système S, seront des caractères comme des autres, composés des mêmes traits cunéiformes, écrits avec le même instrument. Et on arrive maintenant à notre coda, le fin. À quoi ça mène? Dans la période qui suit, de 2200 à 2000 à peu près, dans la période dite de l'Empire d'Ur III, on a un accroissement important du nombre de textes. L'augmentation des échanges administratifs écrits nécessite une efficacité donc plus grande des techniques d'enregistrement. L'aboutissement de la course de vitesse de l'écriture et l'abandon même, quelque part vers la fin du deuxième millénaire, de la distinction entre les deux sortes de traits verticaux dans le système S. Le trait vertical épais, dernière trace de l'impression non standard, est délaissé en faveur du trait simple. Dans les textes de comptabilité, l'ambiguïté ainsi créée peut être contrée partiellement par une multiplication des noms d'unités, tels que l'on n'a que rarement besoin de quantifier au-delà de quelques unités. Mais, et voici mon point essentiel, il y a encore mieux, car les scribes mésopotamiens ont transformé cette ambiguïté en avantage pour le calcul. Que cela se passe à cette époque, on le sait grâce à un seul document, un parmi la trentaine de milliers de textes de cette époque publiés jusqu'ici. Il s'agit d'un texte, et le fait que je vais l'écrire a été trouvé par Marvin Powell il y a quelques années, apparemment anodin, de comptabilité de livraison de métaux. Voici le texte. Comme cela. Et l'importance pour nous, c'est dans les cinq premières lignes. Les quatre lignes de début représentent en fait une addition effectuée par le scribe et laissée sur la tablette pour des raisons inconnues, dont le résultat apparaît dans la cinquième ligne en unité de poids ordinaire. Cette suite ordonnée d'ex-petites encoches et ex-petites cercles de système S, voilà l'ex-petite encoche, le petit cercle qui suit, on attend ici le grand encoche et on a encore une trait verticale simple absolument identique au trait qui représente l'ex-petite encoche. En effet, dans le cadre de la cunéiformisation, le grand cercle, nous l'avons dit, est devenu un signe cunéiforme différent de petit cercle et pas seulement par la taille. Ici, au contraire, à la gauche de l'ex-grande encoche, on a encore une fois un petit cercle. C'est-à-dire, le scribe a pris simplement cette cunéiformisation comme base d'un développement d'une écriture dans lequel on voit la présence d'un système purement positionnel, c'est-à-dire d'une écriture dans laquelle seule la position du signe indique sa valeur. Si le grand encoche égale maintenant le petit encoche en forme, rien ne peut le distinguer et on le prend comme une petite encoche, un certain nombre d'unités. Mais si c'est le cas, comment distinguer alors sa position ici de sa position ici? Simplement en attribuant à la position de ce même signe une valeur différente selon sa position. Nous avons ici tout simplement un système de position comme le nôtre, avec cette seule différence que notre système est à base 10, le système mésopotamien, grâce au fait que les deux signes qui se confondent et donc marquent le passage à un système de position étaient le petit encoche et le grand encoche, qui étaient séparés par un facteur, on se rappelle pour le système S, de 10 fois 6, c'est-à-dire 60. On a ici donc un système positionnel de base 60. On a même dans ce texte, et ça c'est une chance heureuse, le premier zéro, c'est ici. Et ça marque, en fait, simplement l'absence des unités dans cette position. Si on fait l'addition de tous ces quatre nombres, faisant à chaque colonne une puissance de 60, on aura une certaine somme, je n'ai pas le temps, hélas, de le faire ici, mais cet nombre écrit purement positionnellement, une fois traduit en termes des unités métrologiques du poids, donne précisément le total que vous voyez ici, une manne et demi, trois guinées et demi, moins sept chais d'argent. Les unités utilisées pour écrire la ligne métrologique restent à peu près les mêmes que toujours. Par contre, les nombres utilisés pour le calcul ici, laissés par le scribe, nous montrent qu'il s'agit d'un système positionnel de base 60, un système dit sexagésimal. Mais encore plus importante que la création de ce système positionnel est le fait que celui-ci est pour la première fois indépendante du système métrologique. C'est un pas majeur en avant dans un long processus d'abstraction de nombres, un processus qui continuera jusqu'à nos jours. On a maintenant un objet mathématique sur lequel on peut opérer sans restriction par rapport à un système de mesure quelconque. Dans les deux millénaires qui restent à la civilisation mésopotamienne, on va les additionner, les multiplier, prendre leurs racines carrées et leurs inverses au gré des procédures de solution des problèmes mathématiques, sans besoin de prendre en compte, sauf au début et à la fin du problème, leur éventuelle origine métrologique concrète dans le problème considéré. Bien sûr, la naissance du nombre abstrait, positionnel, n'est pas un simple réflexe automatique de réforme orthographique. Il fallait une pensée pour trouver la solution. Mais la nature du support de l'écriture et les besoins toujours plus productivistes des États mésopotamiens successifs ont créé la motivation et déterminé la direction de ce changement. J'ai essayé d'illustrer aussi en détail et concrètement que possible certains aspects des rapports entre écriture et nombre. Tout d'abord, l'effacement de la distinction des signes représentant une quantité dans différents systèmes métrologiques et la manière dont cette unification restructure l'organisation des portions de textes mathématiques. Ensuite, les effets de tension entre le processus de linéarisation de l'écriture et les ambiguïtés qui en résultent. Au départ, après tout, l'écriture n'est pas linéaire du tout. L'ordre des signes, par exemple, dans les textes archaïques, est arbitraire à l'intérieur d'une case. Les transformations de l'écriture nécessitent des compensations dans le cas des mathématiques. Ainsi, la dissociation dans l'écriture de différents éléments, l'information quantitative et le nom de l'unité à laquelle elle est attachée, créent la possibilité d'isoler cette information quantitative et d'opérer sur elle seule diverses transformations. L'effet dynamique créé par plusieurs modifications aboutit enfin à un nouvel objet mathématique, le nombre sexagésimal inclus dans des calculs dans le cadre d'un système unique de numération positionnelle. Ces rapports étroits entre nombre et écriture, je l'ai indiqué en commençant, se sont poursuivis bien après la période que j'ai étudiée en détail ici. En fait, ils sont loin d'être épuisés à la fin de notre deuxième millénaire. L'écriture des nombres dans des programmes informatiques, par exemple, en particulier des problèmes liés à la finitude de cette écriture par rapport au type de nombre écrit en usage, fournissent un exemple récent de la fécondité actuelle de ces relations. Je pense que ces relations sont d'autant plus intéressantes à observer que l'écriture est spontanément perçue maintenant comme une simple réflexion de la langue parlée. En témoigne le fait que l'Internet a longtemps été incapable de gérer les formules mathématiques autrement que comme des images. Je voudrais quand même terminer par une question ouverte. On parle beaucoup à l'aube du XXIe siècle, de notre ère, de la disparition du support écrit, même de l'écriture, perçu comme simple enregistrement, au profit d'une information fondée sur des images. Compte tenu des relations profondes entre mathématiques et écriture, il me semble intéressant de se demander comment l'écriture et donc l'activité mathématique s'en trouveront transformées. Merci.
J'ai une question par rapport à l'informatique. Je ne connais pas beaucoup l'informatique pour les mathématiques, mais pour le langage oral, je voudrais savoir s'il y a une analogie entre ce que vous venez de montrer et, disons, les nouvelles techniques dont on possède maintenant pour traiter le langage oral, s'il y aura peut-être quelque chose d'analogue qui se développera en mathématiques.
Bon, ce que je peux dire à propos de cela, c'est qu'il y a exactement le problème, par exemple, qui m'a tellement mystifié quand j'étais plus jeune, c'est le problème de, essentiellement enregistré par des moyens, à l'époque, à mon époque c'était sonore, maintenant informatique, des textes mathématiques. Et je sais qu'il y a tout un programme de recherche sur, à cause des difficultés justement de transformer une écriture mathématique en écriture, ou plutôt en valeur sonore ou informatique, que essentiellement on a besoin de monter tout un programme de recherche là-dessus. Les résultats ne sont pas encore acquis, donc je ne peux pas vous dire à quel stade il se trouve en ce moment, mais simplement que c'est un domaine de recherche active en ce moment en informatique autour de cette question de transformation des textes mathématiques en textes informatiques.
Monsieur, je suis un peu interloqué parce que, bon, moi je me souviens que lorsque à l'école j'ai commencé à apprendre à faire des opérations, on n'a pas. C'était pas horizontal, c'était vertical. C'est verticalement qu'on a appris à faire des additions. Bon. Moi je crois quand même que ça va plus vite que horizontalement, comme c'est fait maintenant, non ?
Essentiellement, je crois que la direction dans laquelle on fait ces calculs n'est pas particulièrement pertinente pour la vitesse avec laquelle on peut le faire. De toute manière, cette rotation de direction d'écriture qu'on a observée vers la fin du deuxième millénaire, c'est quelque chose qui a été imposé pour des raisons, à mon avis, différentes de des questions d'efficacité de calcul. C'était imposé pour des raisons liées au support d'argile et à la question d'effacement de signes. Je crois que la direction dans laquelle on opère diffère d'une société à une autre et que je sache, toutes les sociétés arrivent à faire ces calculs dans une manière plus ou moins semblable et avec une efficacité plus ou moins égale.
Monsieur, là, une question.
Au sujet de la direction des chiffres, moi je voudrais que vous nous expliquiez pour les chiffres arabes. Ce sont les Arabes donc, qui ont diffusé donc, ces chiffres. Comment expliquez-vous que dans ces civilisations, on écrive de droite à gauche et on calcule dans le sens inverse ?
Je ne l'explique pas. Je ne suis pas spécialiste du monde arabe et donc je ne peux pas vous répondre en détail sur cette question-là. La direction d'écriture dans les écritures alphabétiques, c'est une toute autre question. C'était quelque chose d'indépendant du développement de l'écriture en Mésopotamie. Il n'y a pas d'influence de l'écriture mésopotamienne sur le développement de l'écriture au pays arabe. Et donc, cette question-là, c'est plutôt à un spécialiste des mathématiques arabes qu'il faut l'adresser. Je suis désolé.
Une question tout en haut, là-bas. Mademoiselle, allez-y, levez-vous. Levez-vous, allez-y.
Ah, pardon. Oui, pardon. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, si vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons les sociétés les plus archaïques ont eu tendance à choisir un système sexagésimal, d'une part, et d'autre part, dire en quelques mots comment on s'est arrangé pour donner une représentation phonétique aux signes de l'écriture cunéiforme dont vous nous avez parlé. Merci.
Par rapport à la première question, j'ai essayé de l'indiquer dans ce que j'ai dit. Je le répète très brièvement ici. Ils n'ont pas choisi la base 60. C'était le produit d'une série de choix autres, à savoir le fait que dans le système S, la différence entre les deux signes qui se confondent avec la cunéiformisation la différence relative de ces deux signes, le grand encoche et le petit encoche, était d'un facteur de 60 dans ce système. Si, par exemple, on avait choisi un autre système en utilisation en Mésopotamie, le système G, ou Che plutôt, on aurait eu un facteur non pas de 60, mais de 18. C'est donc, ce n'était pas un choix de 60, c'était simplement que les deux signes qui se confondaient et donnaient naissance donc à l'idée d'un système de position avaient, pour des raisons qui ne sont inconnues, une différence de facteur de 60. Pour la question de la phonétisation, essentiellement, il y a plusieurs techniques pour attribuer une valeur phonétique à un signe qui, jusqu'à là, n'avait qu'un sens d'information. Principalement, c'était le principe de rébus, c'est-à-dire on prend le nom d'objet, de l'objet que le signe non numérique représente, on donne donc à ce signe la valeur phonétique du début ou même de tout le mot que le signe représente. Et chaque fois qu'on a besoin de cette valeur phonétique dans un autre mot, on utilise ce même signe, irrespective donc de son sens originaire, qui était donc d'un seul objet. On peut l'utiliser dans n'importe quel mot dans lequel la structure phonétique fait appel à ce son. Et ça, c'est essentiellement la pratique adoptée en Mésopotamie.
Madame.
Oui, professeur, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelque chose concernant l'écriture égyptienne, ce qu'il y avait eu comme différence par rapport à l'écriture mésopotamienne en ce qui concerne l'écriture des chiffres, si c'était, s'il y avait une évolution dans le concept ou si c'est simplement la même chose?
Je crois, moi, que essentiellement, on a en Égypte le même développement qu'en Mésopotamie. C'est-à-dire, on a une écriture qui, au début, était informationnelle et non pas phonétique, dans laquelle le gros de l'information était porté par des signes numériques. On a un développement de cette écriture, non pas vers la cunéiformisation, parce que le support matériel en Égypte était plutôt le papyrus ou les ostracas, les éclats de pierre ou de tessons. Cette stylisation de l'écriture a amené à un certain développement. Mais ce développement était par contre différent en Égypte, en Mésopotamie. Ça n'a pas amené les Égyptiens à développer un système de position à aucun moment. Donc, essentiellement, même s'il y a beaucoup d'éléments semblables entre les deux cultures, il y a cette différence importante, au moins dans le développement d'une écriture de nombre.
Monsieur là.
Système de positionnement, le signe zéro devrait s'imposer. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas eu le signe zéro?
Ils ont un signe zéro, c'est un blanc. Et justement, on le voit dans ce premier texte. Ce blanc-là reste tout à fait, d'ailleurs, utilisé et utilisable jusqu'à presque la fin de la civilisation mésopotamienne. Ce n'est que dans les quelques siècles avant notre ère que des besoins nouveaux en calcul astronomique amenaient à les Mésopotamiens à introduire un signe spécifique cunéiforme pour le zéro, qui donc intervient à partir du 4e ou 3e siècle avant notre ère.
Question là, monsieur, sur le côté.
Oui, j'aurais voulu savoir quelles sont les principales difficultés aujourd'hui pour traduire l'écriture mathématique en écriture informatique.
Je crois que c'est principalement justement cette non-linéarité. Je vous ai montré quelques exemples récents de cela. Même sur dans des notations plus simples, on a des problèmes qu'il n'y a pas de convention adoptée pour dire à haute voix des mathématiques. Les mathématiciens travaillent par écrit et non pas oralement, au moins en grande partie. Et cela veut dire que, essentiellement, on n'a pas besoin de dire des choses qu'on est en train d'écrire. Cette écriture a donc une autonomie en mathématiques que, évidemment, l'écriture des textes littéraires n'ont pas. C'est donc dans le développement des conventions orales pour la lecture des textes mathématiques que se trouve, où se trouve la difficulté principale dans ce domaine de recherche maintenant.
Monsieur.
Oui. Mon intervention se rapporte à la question précédente. On assiste depuis quelques années à une véritable rétrogradation des choses dans le domaine de l'écriture mathématique au moyen de l'informatique. En effet, les éditeurs ont pratiquement, et surtout américains, anglo-saxons en général, ont pratiquement imposé certains langages à partir de TeX, LaTeX, etc. Et c'est une rétrogradation dans le sens que, autrefois, avant l'existence des symboles mathématiques, on s'exprimait en langage humain normal. Et maintenant, c'est ce retour à ce langage humain qui font que les formules mathématiques en informatique deviennent absolument monstrueuses parce qu'écrites, je prends un exemple, n'est-ce pas, un sigma, par exemple, qui est un symbole couramment utilisé en mathématiques, eh bien, en langage classique, ça s'écrit S-I-G-M-A, et évidemment avec un certain nombre d'abréviations. Comment expliquez-vous ce phénomène? Alors, il existe maintenant des codes qui permettent de passer directement. Enfin, c'est extrêmement lourd au point de vue informatique, déjà, et pour faciliter la lecture et l'écriture par le mathématicien moyen, n'est-ce pas? Voilà, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette rétrogradation de l'écriture mathématique?
Bon, rétrogradation est installé dès le début un certain jugement là-dessus, que je ne partage pas forcément. Je crois que essentiellement les techniques pour écrire des mathématiques dans un contexte informatique d'aujourd'hui, d'abord, ont déjà pas mal évolué depuis l'époque où j'ai commencé moi-même, il y a 30 ans, à utiliser l'informatique dans les maths. Je trouve que la situation, par contre, s'est améliorée depuis ce temps-là, avec TeX, etc., et d'autres langages de cette sorte-là. J'indique simplement que l'autre choix, quelque part, c'est l'utilisation des images qui a fait pour les formules mathématiques, qui sont beaucoup plus longues à mettre en action que ces codages modernes. Et donc, franchement, moi, au moins, je ne regrette pas le passage de cette période d'une écriture imagée des mathématiques à un codage plus ou moins linéaire. Mais cela est certainement une question de goût de mathématiciens concernés.
Oui, deux petits compléments sur les interventions que nous venons d'entendre. Dans la langue allemande, on écrit comme nous 43, mais on le lit 3 et 40, Traumfertig. Et le blanc, mais il n'a pas disparu en français. Quand je jouais au domino, je ne disais pas le 3-0, je disais le 3-blanc.
Monsieur, je voudrais revenir tout à fait au début de votre exposé. Lorsque vous nous avez présenté une tablette comptant des troupeaux, vous nous avez dit qu'au verso, c'était le comptage détaillé, au recto, pardon, le comptage détaillé, et au verso, le total. Toute votre conférence est basée là-dessus, mais qu'est-ce qui vous a fait découvrir qu'il s'agissait du total d'un côté et non pas du descriptif d'un autre troupeau?
D'abord, ce n'est pas moi, c'est, c'est le travail de 50 ans en assyriologie. C'est simplement que systématiquement et sans exception, on peut essentiellement attribuer au revers d'une tablette la somme des entrées sur la face. J'ai essayé de vous montrer avec la première tablette que je vous ai montrée précisément ce fait-là, puisque en l'occurrence dans cette tablette-là, il n'y avait pas de transformation d'unité et donc on pouvait voir bien que pardon, sur le revers, on était en présence de la somme des nombres qui étaient sur la face. C'est simplement tout à fait empirique. Toutes les milliers de tablettes dans lesquelles on a trace, essentiellement, suivent cette règle que le revers, c'est le total des entrées qui se trouvent sur la face.
Madame.
Bonjour. En introduction, vous avez dit que...
Parlez dans le micro, s'il vous plaît.
En introduction, vous avez dit que vous étiez aussi investi sur la divination, je crois, dans les anciennes cultures. Et je voulais savoir, donc, notamment en Égypte, la divination, si le fondement de cette divination était une base mathématique, parce que mathématique prédictive. Est-ce que votre réflexion est allée dans ce sens ?
Bon, d'abord, la divination n'est pas une spécialité des Égyptiens, en fait. C'est beaucoup plus en Mésopotamie qu'on trouve la divination comme un développement important. Il n'y a pas une divination numérique. Ce qu'il y a, c'est une structure de texte en divination qui sont identiques, dans l'essentiel, à la structure des textes en mathématiques et en médecine. C'est pour cette raison-là je parle des pratiques rationnelles, c'est-à-dire des pratiques des spécialistes dans la société en question, en l'occurrence la Mésopotamie, dans des domaines qui étaient considérés par les Mésopotamiens eux-mêmes comme étant des domaines de savoir privilégiés. Mathématiques, médecine, divination étaient pour les Babyloniens les composantes d'un domaine qu'aujourd'hui on aurait tendance à appeler scientifique.
Deux dernières questions, monsieur d'abord.
Ici, chez les Mésopotamiens, il existait la notion d'équation, plus spécialement d'inconnu dans une équation. Et à partir de quand a-t-on pensé à utiliser un symbole pour dénommer cet inconnu ?
Bon, la réponse, la première, c'est non, il n'y a pas. Il n'y a pas des équations en mathématiques mésopotamiennes. Il y a des algorithmes de solutions qui essentiellement remplacent, plutôt servent au même but que les équations chez nous. Deuxièmement, la première utilisation d'un symbole spécifique pour un inconnu, plutôt qu'un mot, par exemple, comme on trouve dans les textes arabes algébriques, je dirais probablement du 15e, 16e siècle en Italie, mais je ne suis pas encore une fois experte dans cela, donc je préfère de ne pas m'avancer trop.
Une toute dernière question, monsieur.
Savoir que les chiffres arabes sont appelés chiffres arabes parce que ce sont les Arabes qui les ont vulgarisés, mais qui viennent de Chine. Est-ce que vous pourriez nous parler ou nous dire quelques mots sur les mathématiques chinoises qui doivent être à peu près contemporaines ou des mathématiques mésopotamiennes ?
Les chiffres arabes viennent en fait de l'Inde, non pas de la Chine, mais sur les mathématiques chinoises, encore une fois, hélas, je ne suis pas un spécialiste. Et donc là, je dois vous simplement renvoyer au texte écrit par des sinologues sur cette question.
Jim Reiter, je vous remercie.